ICF.
Bonjour à tous, c'est le temps de le dire et aujourd'hui nous parlons des hommes. Alors si l'on prête l'oreille à la rumeur du monde, il y aurait un peu de blues dans la condition masculine. Le malaise, pour ne pas dire le mal-être, serait présent chez certains hommes. Il y aurait chez eux une difficulté à trouver leur place dans une société de plus en plus marquée par la féminisation, que ce soit dans la famille, au travail. Il est vrai que les rapports dans le couple ont évolué. L'homme est moins le protecteur que le partenaire. Les attentes des femmes ne sont plus les mêmes. La paternité n'est plus vécue de la même façon. Et certains ne s'y retrouveraient plus. L'émancipation des femmes serait-elle une menace pour les hommes? Nous ne le pensons pas, en tout cas. Elle invite à repenser nos rapports hommes-femmes pour que la fin de la domination masculine soit une chance pour tous. Y a-t-il un malaise chez les hommes? Nous en parlons ce matin. Alors comme tous les jours, vous avez la parole, homme ou femme, vous pouvez venir nous parler de la condition de l'homme moderne, comment vous la voyez, comment vous l'appréciez, quelles questions elle vous pose. Vous pouvez bien sûr témoigner. Que vous soyez un super-héros, un artiste, un poète, un intellectuel, un époux fidèle, un donjon, un travailleur, un athlète, un papa poule, un ami sincère, un bon copain ou un cœur d'artichaut, tous les hommes ont la place ce matin dans cette émission. Le temps de le dire, le téléphone, vous le connaissez, 04 72 38 20 23 et le mail le temps de le dire @rcf.fr.
. 9h30, 11h, toute la vie en question sur RCF.
Et deux invités ce matin dans cette émission pour nous parler du mal-être, s'il y a mal-être autour de la condition masculine, en tout cas peut-être les difficultés à être homme aujourd'hui et comment repenser nos rapports homme-femme, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le monde du travail ou même dans la société tout entière. Deux invités, Colette Combe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, psychanalyste, vous êtes une spécialiste de la question des problèmes d'anorexie et vous êtes beaucoup intéressée au masculin et au féminin. Comment l'anorexie s'amène à s'interroger au masculin et au féminin?
Mais en partie parce que depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'expressions et de demandes d'hommes pour l'anorexie, que cela correspond à peu près au moment où la place du corps dans la publicité du corps masculin est apparue. Et à peu près au même moment où les adolescentes, les jeunes adolescentes sont venues très, très critiques sur, et très exigeantes sur le corps et le cœur des jeunes hommes. Et donc, on peut dire que le mal-être physique que les femmes, que les jeunes femmes ont dès la puberté, vis-à-vis de leur image d'elles-mêmes, n'est plus leur apanage à elles, mais devient quelque chose de partagé avec les jeunes hommes.
Alors vous, on le sait bien, les psys ne voient que les gens qui ne vont pas très bien, mais vous avez l'impression que ça va un petit peu plus mal chez les hommes aujourd'hui que chez les femmes ?
Je ne dirais pas que ça va plus mal chez les uns ou chez les autres. Je peux simplement témoigner que les jeunes hommes, que ce soit adolescents dans les années lycées ou que ce soit les jeunes hommes jusque vers 35 ans, jusque l'âge retardé souvent maintenant de l'engagement vers la famille, vers le couple et la paternité, sont assez perdus, on pourrait dire parfois, sur comment définir leur fonction. Leur fonction dans le couple, leur fonction de paternité. Et même très tôt, ces questions sont là. C'est-à-dire que la question du sens, quand je vois un adolescent et que je lui demande, et ce sont des adolescents, rassurez-vous, comme les autres qui viennent voir des psychiatres ou des psychanalystes, je crois que ce sont simplement ceux qui sentent que la parole va pouvoir les aider à réfléchir. Ces jeunes hommes, devant la question de comment ils voient leur avenir, sont très incertains. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup. L'identification à leur propre père n'est pas, ou à leur frère, ce qui va déterminer leur possibilité de répondre à cette question, comment ils voient leur futur, comment ils voient l'horizon du monde devant eux et leur propre horizon.
Merci beaucoup Colette Courmat. On reviendra bien sûr sur cette question de l'image de l'homme aujourd'hui et puis cette notion d'incertitude que vous venez d'évoquer. Merci beaucoup. Deuxième invité dans cette émission pour nous parler de l'homme moderne aujourd'hui. Bonjour Laurent Ledoux.
Bonjour.
Alors vous êtes à Bruxelles, vous êtes le directeur d'une association qui s'appelle Philosophie et Management. Vous étiez déjà venu, je crois que c'était en septembre dernier, pour parler de l'engouement pour la philosophie aujourd'hui. Philosophie et Management, c'est une association qui est un lieu de ressourcement et de formation philosophique pour des personnes qui sont en responsabilité au sein de l'entreprise. Vous avez vous-même été haut fonctionnaire, vous avez eu des postes importants dans le monde de la banque et de la finance. Et puis aujourd'hui, vous vous consacrez à cette mission dans cette association. J'ai dit des personnes en responsabilité. À l'origine, c'était essentiellement des hommes. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus féminisé.
Oui, effectivement, on constate, mais c'est peut-être dû au cycle que nous organisons, que depuis quelques années, nous avons de plus en plus de femmes qui participent à nos séminaires. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié.
Alors vous avez organisé récemment, cette année, deux séminaires qui pourront peut-être nous nourrir pendant cette émission. Un séminaire consacré à l'éthique du chevalier, et puis je ne sais pas si on dit éthique, mais la morale du chevalier, aux valeurs du chevalier, et puis un autre sur l'éthique du care. Alors vous nous ferez partager ça. Je voudrais revenir sur la fonction de cette association, Philosophie et Management. C'est important que les gens en responsabilité aient des lieux pour faire une pause et se nourrir, autre que dans l'entreprise ?
Tout à fait, parce que je pense qu'il faut un espace de liberté que procure la philosophie pour remettre en question toute une série de présupposés qui sont très, très forts dans l'entreprise, sur la façon de gérer, la façon de se comporter avec les équipes, sur les objectifs, sur ce qu'est le profit, etc. Et donc, ces séminaires ont vraiment pour but, en toute liberté, avec des gens qui sont directement impliqués dans ces questions pratiques, eh bien de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, et ainsi éventuellement de revoir de fond en comble notre manière de gérer. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui, à un moment où l'on sent bien que notre système économique et toute une série de ses présupposés ne sont plus évidents et que si on les maintient, je dirais, on ira plus sûrement encore dans le mur que ce que nous ne faisons déjà.
Alors, je vais peut-être dire un gros cliché, mais cette prise de conscience de la nécessité de prendre du recul, elle est peut-être aussi concomitante à l'arrivée des femmes dans les postes à responsabilité ?
Alors, ça, honnêtement, je ne saurais pas trop vous le dire. Il est sûr que le fait qu'il y ait plus de femmes aujourd'hui à des postes importants de direction peut y contribuer. Je ne suis pas sûr que ce soit le facteur déterminant. Mais ça, on pourrait y revenir quand on parlera justement de l'éthique du care, si vous le voulez bien.
Alors, Laurent Ledoux, vous êtes aussi marié, père de famille. Il y a un malaise chez vous sur la condition masculine ?
Pas que je sache, non, pas que je sache.
Mais le sujet vous paraît pas complètement saugrenu ?
Non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, et là aussi l'éthique du care peut nous aider à mieux le comprendre, je pense qu'il y a une remise en cause, comme cela vient d'être évoqué, de la domination masculine, mais qui était souvent implicite aussi, beaucoup plus qu'explicite. Et c'est précisément, à mon avis, cette remise en question qui procure un malaise chez certains qui ont du mal et qui peut-être justement n'ont pas toujours les outils pour bien le comprendre, qui crée un malaise, effectivement. Car quand on perd, d'une manière ou d'une autre, sa domination, qu'elle soit explicite ou non, ça remet en question et ce n'est pas toujours facile à vivre.
Vos questions, vos réactions, au 04 72 38 20 23.
C'est le temps de le dire. Y a-t-il un malaise au niveau de la condition masculine aujourd'hui ? Nous en parlons ce matin dans cette émission avec la psychanalyste Colette Combes et Laurent Ledoux, le directeur de l'association Philosophie et Management. C'est le temps de le dire. Donc, comme tous les jours, vous avez la parole. Vous n'hésitez pas à témoigner, à questionner, à réagir au sujet de cette émission et aux propos de mes invités. Je vous rappelle le téléphone 04 72 38 20 23 ou par mail letempsdeledire@rcf.fr en minuscule et tout attaché. Alors, je voudrais qu'on vienne d'abord sur l'image de l'homme moderne aujourd'hui. On l'a vu, puis on le voit si on est un petit peu attentif, et j'ai un peu fait attention à ça ces derniers temps pour préparer l'émission. L'homme dans la publicité, si on prend la publicité, est véritablement devenu un objet sexuel comme les autres et comme la femme. Ça vous choque, ces images de l'homme dans la pub, au cinéma, dans la chanson, Laurent Ledoux ?
Non, pas particulièrement. Non, ça ne me choque pas. Disons que je dirais que s'il fallait être choqué, alors ce serait de manière plus générale sur l'usage des corps, qu'ils soient féminins ou masculins, pour vendre des produits. C'est surtout à ce niveau-là que c'est choquant. Mais pas le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi cela concernant les hommes. Là, je dirais plutôt que ça va dans le sens d'une plus grande égalité. Et oui, peut-être que c'est tant mieux. Mais il faudrait aller plus loin et remettre en cause, effectivement, la marchandisation des corps.
C'est ça qui me paraît choquant. Colette Combe,
je ferai un peu la même réponse, mais je pense que c'est surtout que ça imprime une grande importance du visuel dans la rencontre. Et là, c'est particulier, en fait. Les adolescents en souffrent beaucoup, adolescents et adolescentes en souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup une référence à quelle impression ils vont faire. Beaucoup plus que les générations précédentes. Depuis même pas 8 ans à peu près, il y a eu un tournant très, très, très important qui correspond au moment où l'image du corps de l'homme aussi entre dans ce qui définit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de normalisation. Avoir un corps différent des autres gêne. Comme si quelque chose de l'originalité n'est plus aussi facile à mettre en avant. Donc ça définit beaucoup, bien différemment, l'adolescence et le jeune âge adulte. Il y a une sorte d'anonymat plus grand.
Alors, c'est ce que disait Laurent Ledoux. Il y a une forme que vous avez repris hein, sur l'égalité homme-femme dans la publicité maintenant. Il y a aussi au niveau du poids de l'image, de l'impression sur l'image, le physique, la mode. En même temps, on sent que les hommes se sont libérés. Ils ont accès à plus de fantaisie. Quand on voit la mode masculine a complètement révolutionné les codes. Hein, on est loin du costume cravate sombre pour tout le monde. Et en même temps, on est de plus en plus prisonnier de ce qu'on doit être. Être Laurent Ledoux.
Oui, je pense que Madame Combe a tout à fait raison. Je pense que c'est lié effectivement à la montée en puissance grâce aux nouvelles technologies depuis le siècle passé de l'image. Hein, je veux dire, on parle aujourd'hui à la radio, effectivement à la radio, qui était un des médias prépondérants avant, la question de l'image ne se posait pas ou pratiquement pas. Aujourd'hui, et non seulement au travers de la télévision, mais aussi évidemment d'Internet, des réseaux sociaux, etc., cela prend une importance prépondérante, indépendamment du sexe, hein, que ce soit masculin ou féminin. Donc là, effectivement, il y a une évolution très particulière. Alors, est-ce qu'on doit s'en sentir prisonnier ? Moi, je pense que ce dont nous sommes peut-être plus prisonniers, c'est de notre inconscience quant aux constructions sociales qu'il y a autour de la question du masculin et du féminin. Et cela peut-être est en train de voler en éclats et ça permet toute une série de choses à la fois positives et moins positives.
Qu'est-ce que vous entendez par là, Laurent Ledoux ?
Je dirais que, si vous voulez, en tout cas sur le plan positif, cela peut impliquer qu'on se rende compte à quel point ce que nous ressentons comme étant de l'ordre du masculin ou du féminin est en fait le résultat de constructions sociales souvent implicites. La manière dont nous sommes éduqués, la manière dont nos parents, père ou mère nous regardent, etc., induit toute une série de comportements à notre insu et qui... Voilà, nous enferme en fait dans une certaine idée de nous-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous commençons à nous en rendre compte de plus en plus, et cela, en quelque sorte, est une libération, mais comme toute libération...
Elle provoque aussi un malaise.
Exactement, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc je crois que une des choses, et en ce sens la psychanalyse peut nous y aider, mais aussi la philosophie, la sociologie et toute une série d'autres disciplines, peuvent nous aider à mieux comprendre ces mécanismes et donc, je dirais, à être plus à l'aise avec eux.
Colette Combes,
oui,
vous
moi
êtes d'accord ?
Je soulignerais que pour ce qui est des patients que j'écoute et qui sont dans le monde de l'entreprise, je remarque que quand ils embauchent, ils trouvent la génération des 25 ans beaucoup plus libre dans la définition homme-femme, que les jeunes femmes ne se présentent pas en voulant ressembler à des hommes, ce qu'ils trouvent encore pourtant présent chez les jeunes femmes qui vont avoir des responsabilités et qui ont 30 ou 35 ans. Ils trouvent une grande différence et ça me rend très optimiste. Je pense que quelque chose évolue de cette façon un peu en sourdine pour nous, hein. L'évolution au-delà du féminisme et de malgré tout quelque chose d'assez impossible pour les femmes d'être à la fois super woman dans la vie professionnelle comme amante et comme mère, hein. Et peut-être quelque chose qui ne gênera pas autant les générations d'après. En tout cas, c'est l'intuition que j'ai quand je les écoute. Ils sont moins dans la comparaison ou dans la mise en rivalité du féminin et du masculin.
Ils sont plus libres.
Ben, comme si quelque chose s'équilibrait, effectivement, je rejoindrais bien Monsieur Ledoux sur le fait que on a beaucoup défini l'un en l'opposant à l'autre, hein, et peut-être qu'actuellement c'est beaucoup moins évident cette façon de penser. Et voyez par exemple la difficulté que ça peut être pour des adolescents d'être entre garçons et filles depuis la sixième. Mais c'est quelque chose qui en même temps, même si c'est difficile en même temps que la puberté, c'est quelque chose qui leur permet d'évoluer progressivement dans leur vision du masculin et du féminin avant de prendre les décisions importantes de leur vie et avant d'avoir à travailler ensemble.
Finalement, vous êtes en train de nous dire, Colette Combes, que le malaise qu'on peut sentir dans les relations hommes-femmes chez une partie de la population aura une durée, puisque la jeune génération qui arrive est visiblement s'est libérée des stéréotypes et des clichés.
Oui, et je pense qu'il faut mettre ça en relation avec la façon de penser les générations les unes après les autres. Je dirais par exemple que ce que je constate comme événement difficile pour autant pour les jeunes hommes et presque plus que pour les jeunes femmes, c'est la mort de leurs grands-parents. Il y a quelque chose du lien aux grands-parents qui est très fort dans les jeunes générations. Peut-être parce que leurs mères ont été très très occupées comme leur père. Et du coup, on sent qu'ils ont une envie de mettre en avant et en priorité la réussite de leur famille. C'est aussi la conséquence d'avoir été dans des classes depuis le primaire où la moitié des enfants sont des enfants de divorcés pratiquement. Enfin, j'exagère à peine. Et donc, ils ont vu la précarité, mais aussi du coup l'importance de penser les liens féminin-masculin autrement.
Laurent Ledoux, vous êtes d'accord sur cette plus grande liberté des jeunes générations ?
Oui, c'est très difficile pour moi de généraliser, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Je voudrais simplement compléter ce qu'a dit Madame Combes en deux points. Le premier, effectivement, je pense qu'il y a une évolution dans les entreprises, mais il faut le reconnaître, nous sommes encore très très loin du compte. Et je pense qu'il y a encore un peu trop dans toute une série de mesures qui sont prises, par exemple pour faciliter l'accès des femmes au plus haut poste de direction, une vision qui reste encore trop dans un dualisme masculin-féminin. Alors que ce qu'il faudrait beaucoup plus promouvoir, me semble-t-il, c'est une sensibilité de tous, qu'ils soient hommes ou femmes, à une autre dimension des relations humaines. Et pour le dire de manière très simple, accorder une plus grande attention véritablement aux relations et pas seulement à des concepts tels que le profit et des choses relativement abstraites qui mènent finalement la gestion des entreprises. si nous réussissons cela, alors nous aurons non seulement une plus grande diversité au sein des entreprises, mais aussi des entreprises qui peut-être fonctionneront différemment et de manière, disons-le, de manière un peu simple, plus humaine. Donc, en ce sens, je pense qu'il y a un gros défi, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il faudrait freiner les tentatives pour réduire l'écart qui existe encore toujours et qui est tout à fait inacceptable entre hommes et femmes sur beaucoup de points dans les entreprises, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et en ce sens, je rejoins Madame Combes, il y a une évolution en ce sens, mais selon moi, il est encore un peu timide et pas toujours bien compris.
Alors, je voudrais quand même qu'on essaye de décrire ce mal-être autour de la condition masculine, de ce que vous pouvez en percevoir chacun depuis vos postes d'observation, hein, qui sont vos cabinets Colette Combes ou le monde de l'entreprise Laurent Ledoux. Qu'est-ce que vous percevez de ce malaise? Par quoi il se caractérise, Colette Combes?
Je dirais qu'il est très difficile d'attendre pour la génération 30-35 ans, d'attendre si tard pour prendre leur place dans la vie en tant que père. Et ça, c'est une cause de doute et d'incertitude. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir être sûr, enfin d'avoir le sentiment que les femmes sont libres de partir quand elles veulent. Et donc de ne pas être en sécurité pour prendre cette décision. Donc je les vois retarder cette décision presque majoritairement vers 33-35 ans, hein, très tard. Et je pense que ça n'est pas du tout source d'équilibre, même pour la vie professionnelle.
Quand vous dites les femmes libres de partir, c'est-à-dire qu'ils peuvent être quittés par leur conjointe,
oui,
c'est ça, hein?
Oui.
Alors c'est la fragilité du couple.
Oui, mais cette fragilité, je la ressentais plus perceptible chez les femmes avant. Et maintenant, je sens la même inquiétude chez les hommes. Je le vois aussi dans les couples de deuxième génération. Les deuxièmes couples après divorce, avec de nouveaux enfants, les hommes ayant la cinquantaine au moment de ce nouvel engagement familial. Il y a vraiment l'envie de ne pas faire les erreurs faites la première fois, conscient qu'ils ont été trop insouciants, qu'ils n'ont pas été assez présents auprès de leur femme, ou qu'ils ont demandé à leur femme quelque chose qu'après coup ils disent être comme si elles étaient leur mère, comme si elles devaient s'occuper d'eux. Et je les vois très différents. Dans le deuxième couple, je les vois beaucoup plus participants, attentifs et moins en position d'enfant, comme on entend parfois les femmes dire entre elles « Oh, les hommes, c'est des vrais enfants ». J'ai de l'espoir à ce niveau-là qu'il y ait une évolution, une maturation masculine qui va au-delà de cette conception d'être servi. Alors servi, on pouvait le voir en termes de domination, mais on peut aussi le voir, et en tant que psychanalyste, moi je dirais plutôt ça, qu'ils n'ont pas été au bout de leur maturation et qu'ils ont des demandes vis-à-vis de leur compagne qui sont parfois des demandes d'enfants. Je ne généralise pas, bien sûr, en disant ça, mais je dis qu'en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ils viennent travailler pour mieux profiter, par exemple, ces cinquantenaires de savoir être père.
On continuera, bien sûr, à décrypter, mais on donne la parole aussi aux auditeurs dans cette émission. Ils nous appellent au 04 72 38 20 23 et Florence est avec nous depuis Marc-en-Barœul, dans le Nord, à côté de Lille. Bonjour Florence.
Bonjour. Voilà, je voulais un petit peu vous faire part de ma réflexion. Je pense qu'il est sûr que les femmes ont été fort écrasées à une époque et qu'elles ont revendiqué tellement fort qu'elles ont revendiqué l'égalité, au lieu de revendiquer peut-être la complémentarité, donc l'équité, quoi. Et cette revendication fait qu'elle demande la même chose que l'homme. Au lieu de voir ce tableau, ben voilà, je m'explique moins bien, mais la complémentarité. Et je pense que c'est quelque chose, on peut tous avoir sa place et on peut tous la trouver si chacun est respecté dans sa différence.
Merci Florence, c'est intéressant ce que vous nous dites. Alors, les femmes ont lutté pour l'égalité, et peut-être qu'aujourd'hui il faudrait plus réfléchir sur l'équité et la complémentarité et le respect des différences. Est-ce que cette réflexion, on peut l'appliquer dans tous les domaines, que ce soit le couple, l'entreprise, la société? Peut-être Laurent Ledoux pour prendre une première réponse.
Mais on ne peut qu'être d'accord avec ce que madame vient de dire. En même temps, je pense que cet argument est parfois utilisé à la fois par des hommes comme par des femmes pour finalement laisser les choses en l'état. Il ne s'agit pas de contester les différences physiologiques, biologiques qu'il y a entre hommes et femmes, mais je pense qu'on exagère peut-être un peu trop ce que cela implique en termes, par exemple, de division des tâches, etc. Et en particulier, et c'est là tout l'apport, je pense, de la réflexion à partir de l'éthique du care, on pourrait dire de manière très caricaturale que dans toute l'histoire jusqu'à présent, les hommes, en gros, ont eu les tâches de chasse ou de gagner de l'argent à l'extérieur, etc., souvent jugées les tâches nobles, et puis que les femmes s'occupaient plus des relations de soins aux autres, aux plus vulnérables.
Ce qu'on appelle le care.
Le care, exactement. Or, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte à quel point nous sommes tous vulnérables, que ce n'est pas seulement le petit enfant, le nourrisson ou les vieillards qui sont vulnérables et qui ont besoin de care, mais c'est que le care est finalement une activité qui est essentielle pour que toute la société fonctionne et que, entre guillemets, ceux qui se disent être les plus autonomes, les plus puissants, voire les plus dominants, les plus riches, les plus successful que sais-je, en fait ne le sont que parce qu'ils bénéficient, et souvent de manière très implicite, du soin qui leur est apporté par d'autres personnes. Je pense que c'est, si nous voulons aller vers plus de complémentarité, mais une complémentarité qui ne s'inscrirait pas dans certaines lois biologiques obscures, mais plutôt sur véritablement des choix de part et d'autre, et une reconnaissance de l'apport de chacun, il faut reconnaître que nous sommes tous vulnérables, que nous avons tous besoin de soins, et que il n'y a rien qui prédispose a priori la femme plus que l'homme à remplir toute une série de ces tâches. Donc je pense que si nous voulons aller vers plus de complémentarité et plus d'égalité aussi entre hommes et femmes, il faut revoir cela. Et donc il faudrait, selon moi par exemple, que les hommes prennent de plus en plus sur eux toute une série de ces activités de soins. Cela se fait déjà dans le couple, et c'est ce que Madame Combes a expliqué. Je pense que ça pourrait se faire beaucoup plus également dans l'entreprise.
Alors on causera cette idée hein, tout à l'heure. Peut-être très rapidement, Colette Combes, une première réflexion à l'intervention de Florence et à ce qu'a répondu Laurent Ledoux, et puis on continuera juste après les informations.
Oui, alors les deux me parlent. Complémentarité, j'oserais, mais en allant sur la pointe des pieds, parce que je sais que je pourrais être critiquée, mais pour moi qui travaille beaucoup la question des hormones, puisque je suis aussi en endocrinologie, la différence d'un cerveau masculin et féminin, c'est radical, on le voit bien à la puberté. J'avancerai doucement pour dire qu'il y a des intelligences complémentaires, et que ça serait un atout, effectivement. Et puis alors l'idée du soin, de prendre soin me paraît essentiel. Effectivement, dans le couple, on sent que les nouvelles générations travaillent dans ce sens. Et j'aurais envie de dire que ça dépend beaucoup de la capacité d'écoute et de parole. Et que là, vraiment, pour les hommes, c'est un changement de devoir parler, de devoir expliquer les choses avant d'agir. Pour eux, c'est plutôt on agit et puis... c'est comme ça dans tout combat, c'est comme ça dans toute situation où il faut se parer à droite et à gauche, on ne va pas trop expliquer, on ne va pas trop dire. Et souvent, les femmes ont envie, elles, qu'on parle, qu'on explique.
Oui, les hommes, c'est plus des taiseux.
Alors, peut-être on imaginerait qu'on irait vers du consensuel beaucoup plus, du coup, de cette façon. Si la parole et l'écoute permettaient la liberté des uns et des autres, hommes et femmes, dans l'entreprise aussi, et dans le couple évidemment, que la réussite, vu notre vulnérabilité, là alors vraiment je suis d'accord, notre fragilité, nos peurs de la solitude, notre peur de la jalousie et nos mouvements de jalousie, on pourrait vouloir être aidé par le fait d'apprendre beaucoup plus tôt à écouter. Et ça demanderait aussi dans l'éducation des changements.
C'est la fin de la première partie de cette émission, Le Temps de le dire, consacrée au malaise autour de la condition masculine et comment prendre mieux soin de nos relations hommes-femmes. Nous en parlons avec Colin Combes et Laurent Ledoux. Et puis avec vous, chers auditeurs, hein, vous continuez, vous prenez part, vous réagissez au 04 72 38 20 23 ou par mail letempsdeledire@rcf.fr.
9h30, 11h, toute la vie en question sur RCF.
C'est le temps de le dire. Soyez les bienvenus. Nous sommes toujours avec Colette Combes et Laurent Ledoux pour parler de la condition masculine aujourd'hui. Comment être un homme aujourd'hui? Quelles sont les difficultés? Y a-t-il un malaise? Voilà, vous êtes les bienvenus au téléphone, homme ou femme. Et là, nous accueillons Sylvie au 04 72 38 20 23. Sylvie, qui est avec nous depuis Dijon. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. Je pense qu'un livre qui pourrait aider les hommes, c'est le livre de Deborah Tannen, T-A-N-E-N, en anglais « You just don't understand ». Il a été traduit « Décidément, virgule, tu ne me comprends pas ». Un jour, j'avais un ami au téléphone qui m'expliquait sa difficulté de couple et son épouse qui avait fait les valises et avait déménagé. Et ce que j'entendais dans ce qu'il me disait, c'est que lorsqu'elle lui exprimait ses difficultés, il lui répondait en termes de solutions. Alors, je lui expliquais que, une femme, lorsqu'elle donne du détail, ça n'est pas pour que l'homme lui donne les solutions. Ce qu'elle recherche, c'est ce qu'explique Deborah Tannen, elle recherche à créer de l'intimité et de l'écoute. C'est ce que disait Colette, besoin d'écoute réciproque. Et que lorsque la femme, on lui donne les solutions, ça la met très en colère parce qu'elle ne se sent pas écoutée, elle ne se sent pas entendue et les solutions, elle peut les trouver toute seule. Ça n'est pas le but. Le but, c'est de tisser du lien, tisser de la relation et s'écouter mutuellement. Voilà.
Merci Sylvie, merci. On va demander à Colette Combes ce qu'elle pense de votre analyse. Mais il y a quand même l'incompréhension dans le couple entre hommes et femmes. Décidément, tu ne me comprends pas. Ça, c'est quelque chose de récurrent, j'imagine, chez vos patients, Colette Combes.
Oui, mais effectivement, c'est souvent une possibilité d'écouter, une façon de tourner en rond dans ses propres revendications, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Mais il y a aussi effectivement cette question des détails, cette question d'une intelligence masculine qui passe par ne pas négliger la moindre chose. Et c'est une qualité, c'est parfois compris par les hommes comme quelque chose d'infernal parce que ça n'arrête pas de revenir avec une nouvelle idée, un nouveau détail. Mais les hommes ayant peut-être plus une pensée extrêmement synthétique qui peut laisser tomber certains éléments. Je crois que si on prend la complémentarité dans ses bons côtés, d'un côté on sait plus vite faire une synthèse, même si on laisse de côté et on minimise des choses qu'on ne sait pas, dont on ne sait pas rendre compte, parce qu'on veut aller vers l'action plus vite. Et chez la femme, il va y avoir cette capacité à la complexité qui est héritée de tonnes de générations, je pense, où à force de penser tous les détails du quotidien, on se formate comme ça. Mais c'est aussi que le cerveau est différemment conçu. J'ai eu l'occasion dans ma carrière de suivre des êtres changeant de sexe, des femmes devenant hommes, et je dois dire que c'est vraiment la chose qui leur paraissait le plus différent, pas tant le changement de leur corps au moment de l'imprégnation par la testostérone, mais le changement de leur façon de penser.
Laurent Ledoux, les différentes formes d'intelligence, est-ce que ça s'entend aussi dans l'entreprise? Est-ce que c'est compliqué à gérer?
Alors, oui, mais d'abord, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit. Mmh. Donc, je pense que ce qui a été décrit dans les deux formes d'approche, hein, plus orientée solution ou plutôt orientée créer du lien, du tissu, c'est effectivement ce qui permet de décrire le mieux l'éthique traditionnelle basée sur des concepts, etc., par exemple la justice, la liberté, la propriété, etc., d'un côté, et puis l'éthique du care, hein, du soin, qui est plus orienté lien, relation, etc. Et effectivement, on pourrait avoir tendance à associer ces deux types de façons de faire, et même d'éthique, au masculin ou au féminin. Ce que contestent malgré tout de nombreux chercheurs aujourd'hui, qui nous disent... Il y a peut-être une partie qui est liée à des phénomènes biologiques, mais c'est probablement pas ce qui est prépondérant. Ce qui serait prépondérant, c'est toute la construction sociale qui y mène et qui fait qu'effectivement, dans nos sociétés et dans toutes les sociétés jusqu'à présent, ce sont plus les femmes qui se sont, occupées du soin, tandis que les hommes d'autres tâches, et c'est ce qui expliquerait ces différents modes de pensée. Ce qui veut donc dire que, moyennant une autre approche de la construction sociale, justement, on pourrait réduire cet écart qui apparaît être lié au sexe. Ça, je pense que c'est très, très important. Parce que sinon, on risque de cliver les choses entre masculin et féminin. Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit la bonne façon de comprendre les choses. En tout cas, ça doit être complété par une analyse beaucoup plus sociologique, politique même, que simplement biologique et psychologique, mais liée au sexe.
Alors, je crois que Colette Combe n'est pas d'accord avec vous. Colette Combe, allez-y, puis on redonnera la parole, bien sûr, à Laurent.
C'est d'ailleurs intéressant qu'on ne soit pas d'accord, je pense, parce que, en fait, oui, je pourrais être d'accord d'une certaine façon, mais j'ai envie d'accentuer mon désaccord. J'ai envie de dire que peut-être nous facilitons les choses en pensant que c'est une question de façon de vivre et qui fait la différence de façon d'être et de penser et de parler des hommes et des femmes, et que c'est que c'est autant politique qu'idéologique, qu'éducatif. Eh bien, je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre. Quand je vois dans des familles des enfants tout petits, vers 2-3 ans, choisir leur jeu, alors que j'ai vu, par exemple, des petites filles jouer aux voitures avec leurs frères avant 2 ans, et puis à 2 ans, se mettre à parce qu'il y a un bébé autour, à prendre soin comme la mère, d'une façon très radicale, en jouant avec leur poupée. Et on ne va pas voir ça chez un petit garçon de la même façon. Et je ne pense pas que c'est une question d'éducation. Donc je pense que si nous... C'est pas pour nous enfermer dans ce que nous sommes, mais c'est plutôt pour essayer de chercher quelque chose à quoi on ne pense pas actuellement et faire confiance aux générations qui viennent et qui sont élevées différemment, pour peut-être voir qu'on aura toujours des différences radicales du masculin et du féminin, parce que nous n'avons pas le même corps, et ça n'est pas rien que de penser un corps ouvert ou de penser un corps conquérant, que de penser un corps qui peut transporter des choses très facilement, même si maintenant, il y a des femmes qui deviennent maçons. Ça, oui, on peut. Moi, j'étais d'une génération où il y avait encore très peu de femmes médecins quand j'ai commencé ma carrière. Et donc, j'allais vers un métier qui était masculin parce que j'avais justement envie de m'opposer à ce point de vue. C'est peut-être parce que je m'y suis beaucoup opposée à l'idée de différence. Parce que j'ai pu voir, par exemple, ma mère arrêter son métier pour s'occuper de ses enfants. Et ce que je n'ai absolument pas voulu faire. Mais avec l'expérience du temps, avec beaucoup de temps à écouter toute la journée des êtres complètement différents les uns des autres, je ne pense plus de la même façon. Je pense que nous avons vraiment à innover de façon mondiale quelque chose de nouveau et que nous ne savons pas encore entre ce que sera le masculin et ce que sera le féminin. Et la différence de base de nos corps y interviendra.
Laurent Ledoux ?
Oui, je suis d'accord avec Madame Combe. Mon propos n'était pas de nier les différences biologiques. Elles sont là et elles ont une influence. Ce que je voulais quand même souligner, c'est qu'il ne faudrait pas prendre ces différences comme un moyen finalement de laisser les choses en l'état. Ce qui est parfois le cas de certaines personnes, à la fois des hommes comme des femmes. Je pense qu'il y a aussi une dimension sociologique, psychologique et politique, je dirais même, qu'il faut prendre en compte si on veut faire évoluer les choses et permettre vraiment à tous de jouer un rôle plus conscient de nos vulnérabilités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est vrai aussi, pour revenir à la question tout à l'heure de Stéphanie, aussi dans les entreprises. J'ai une idée un peu folle, mais qui est la suivante.
Allez-y, soyez fous.
Bon, on voit les conséquences que la crise a aujourd'hui, et elles sont souvent aussi le résultat de toute une série de décisions par le système, entre guillemets, mais par toute une série de personnes à des postes clés de direction qui, quand on les regarde d'un peu plus près, paraissent peu rationnelles, peu responsables. Je me demande dans quelle mesure le fait que des personnes aussi intelligentes prennent des décisions aussi peu rationnelles et aussi peu responsables ne vient pas, en partie du moins, du fait qu'elles sont complètement déconnectées de beaucoup de ce qui fait les relations humaines au quotidien.
Et vous pensez que si nos grands patrons qui sont en train de précipiter certains grands groupes dans la crise, ils se seraient plus occupés de leurs enfants petits, ils feraient le ménage un peu le week-end ou ils iraient faire les courses, ça irait mieux ?
Alors, oui, donc c'est vraiment ça, oui, en quelque sorte. Oui. Je plaiderais même pour que, par exemple, avant de devenir grand patron, on doit passer par exemple 2 ans comme infirmier soignant dans un hôpital et en particulier en s'occupant des plus vulnérables. Je pense que les personnes, après une telle expérience, seraient beaucoup plus à même de bien gérer des grandes entreprises qui ont un impact fondamental dans notre société. Je pense que c'est cette déconnexion qui, aujourd'hui, pose un énorme problème dans beaucoup d'entreprises.
Des auditeurs aussi s'interrogent sur qu'est-ce qu'être un homme et pourquoi ne faut-il pas être viril. Colette Combe est avec nous, elle est psychanalyste, et Laurent Ledoux également avec nous, à l'origine, directeur de l'association Philosophie et Management. On parle de la difficulté d'être un homme aujourd'hui, le malaise autour de l'identité masculine. Alors, on a entendu la chanson de Paul Naref. Il y a aussi des messages qui sont là, qui nous disent qu'il y a une remise en cause de la place des hommes dans la société, comme hommes virils et comme pères. Nos garçons ont absolument besoin de cette image pour être rassurés dans leur identité masculine. Alors, est-ce qu'on a besoin de papa viril pour rassurer les jeunes hommes sur l'identité masculine, Colette Combe?
Je crois surtout qu'on a besoin d'hommes qui soient écoutés dans leur couple et qui sachent aussi être là dans les situations difficiles. C'est donc autant pour moi une façon de, souvent en séance, de montrer aux femmes comment elles détruisent l'autorité masculine en n'en tenant pas compte.
Vous êtes dure, là ?
Oui, mais j'ai envie d'être dure en ce moment, à ce point où on est dans l'émission, parce que j'aimerais que des choses changent. Et je vois en sourdine constamment les raisons qui font qu'un homme souffre dans son couple ou qu'une femme s'en plaint alors qu'elle ne voit pas tout ce qu'il fait. Et je pourrais dire que surtout ce que je trouve difficile pour les hommes aujourd'hui, c'est de subir cette pression de... Ils disent quelque chose, ils essaient d'avoir de l'autorité et par derrière on fait autrement. C'est extrêmement fréquent de la part des mères de faire comme ça.
Pouvez-vous nous donner des exemples concrets qu'on comprenne bien ? Où des femmes détruisent la virilité de leur mari, ou des hommes essayent et on...
Eh bien, je vais prendre des exemples dans l'adolescence. Par exemple, par rapport au choix du métier. Quand il faut choisir une école, quand il faut choisir après le bac, pour les vœux après le bac. C'est vrai que les femmes, souvent, ont été celles qui ont été les plus près des adolescents. Et là, je pourrais donc questionner les hommes en leur disant, mais qu'est-ce qui rend difficile aujourd'hui aux pères d'être présents auprès de leurs adolescents? Alors souvent, ils sont très occupés, ils rentrent tard, puisque si on est un homme professionnellement, avec des responsabilités, on rentre tard, puisque c'est, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, mais une sorte de cas de figure absolument indispensable de rentrer tard. Donc souvent, les mères vont aller au conseil de classe majoritairement, plus que les hommes. Et quand il faut aider des adolescents à décider ce qu'ils veulent faire plus tard, même les garçons, je les vois beaucoup plus en contact avec leur mère dans leurs incertitudes et dans la question des décisions. Mais aussi, je vois que parfois, le père qui a le sens de la réalité, qui dit non, mais ça, c'est pas réaliste, vu tes notes, vu etc., va être court-circuité. C'est-à-dire que les choses vont être lancées dans son dos. Et c'est pas des exceptions, vous savez, c'est quelque chose de très
fréquent.
Vous
êtes en train de nous dire que les hommes doivent retrouver leur place dans la famille,
être plus présents.
Mais
y
par
être
la parole.
Là plus souvent. Oui, par la parole et par l'écoute et par le temps consacré à leurs enfants. Je pourrais le dire de la même façon pour des enfants de 3 ou 4 ans, où le père intervient en disant ça suffit. Et puis, l'enfant, bien sûr, cherche à tester, il cherche à contester. Et une fois sur deux, la mère va dire quelque chose qui minimise ce que le père a dit. Ne va pas se taire et ne va pas laisser la situation se débroussailler entre le père et l'enfant, mais va intervenir et ça va aboutir à quelque chose qui déçoit l'homme dans ses tentatives. En tout cas, les hommes que j'écoute me disent souvent ça, et ce que je vais faire, c'est de les aider à comprendre pourquoi ils ne tiennent pas. Je ne vais pas leur dire « c'est la faute de votre femme ». Évidemment, ça ne changerait rien, elle n'est pas là. Donc, je n'en sais rien de ce qui s'y passe dans le couple. Mais cette position de renoncer à avoir l'autorité en famille est quelque chose qu'il nous faut interroger. Ce n'est pas qu'elle n'est pas tentée, mais elle n'est pas persévérante. Alors ça rejoint peut-être ce que disait M. Ledoux à propos du soin et de l'intérêt qu'il y aurait à avoir un temps à être infirmier auprès de personnes âgées ou auprès de personnes souffrantes ou d'enfants. Parce qu'effectivement, la persévérance dans la famille... Eh bien, c'est ça qui fait l'autorité. C'était beaucoup plus simple pour les hommes autrefois, puisqu'ils avaient qu'à suivre ce qu'avait fait leur père. Donc, c'était plus facile de tenir une ligne droite. Elle n'était pas mise en doute, cette ligne droite, à l'intérieur d'eux. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Les jeunes générations ne se réfèrent pas aux générations précédentes pour savoir comment être parents. Et ils vont se référer entre eux, entre personnes de la même génération, et ils n'ont pas cette solidité. Donc il faut qu'ils aient une solidité interne, puisqu'ils n'ont pas une solidité dans l'identification à leur père.
Laurent Ledoux, vous avez envie de réagir ?
Oui, écoutez, je suis d'accord, je pense, de manière générale avec Madame Combes. Je voudrais simplement leur prendre notre exemple, mon épouse et moi. Et je me dis souvent qu'effectivement, je suis... autoritaire, parfois même trop, que je mets trop l'accent sur la discipline. Nous avons 3 enfants, 3 garçons par ailleurs. Mais en même temps, bon, heureusement dans notre couple, nous ne nous contredisons pas trop vis-à-vis des enfants. Ce qui veut dire que si elle estime que je suis trop dur parfois, elle va me le dire à moi. Et puis nous allons veiller ensemble à rétablir l'équilibre plutôt que elle, dans mon dos entre guillemets, donner des permissions que je n'aurais pas octroyées aux enfants. Donc je pense que ce qui est vraiment important, et là je rejoins tout à fait Madame Combes, c'est de veiller à ce qu'il y ait une unité dans le couple vis-à-vis des enfants. Ça c'est vraiment fondamental. Et je peux m'imaginer qu'effectivement, si ce n'est pas le cas, cela mine d'autant plus, le sentiment des pères qui ne s'y retrouvent plus. Alors ça se complique si en plus on a des familles recomposées, etc. Je peux m'imaginer qu'effectivement pour certains pères ce soit très difficile, mais tout autant j'imagine aussi pour certaines mères. Ce que je voulais ajouter encore, c'est qu'il me semble qu'il faudrait pas trop vite mélanger les choses, c'est-à-dire d'un côté la virilité, hein, et puis tous les aspects justement de de rôles respectifs des parents dans l'éducation des enfants. Je pense qu'on peut être à la fois tout à fait viril et puis être tout à fait d'accord de revenir plus tôt à la maison pour s'occuper des enfants, de préparer les tartines le matin pour l'école parce que l'épouse doit partir plus tôt pour son boulot et ce genre de choses. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, si vous voulez. Cela dit, je pense qu'effectivement, il y a parfois des amalgames qui sont faits et certains, peut-être aussi par facilité, se disent « je suis un homme et donc pour moi, être viril, c'est aussi de ne pas m'occuper de ce genre de choses. »
Bernadette nous appelle au 04 72 38 20 23. Bernadette est au Mans. Bonjour Bernadette. Alors Bernadette, vous coupez votre radio pour passer à l'antenne.
Oui,
allez-y.
Ça y est. Alors, ma conclusion d'une vieille grand-mère, c'est qu'il faut se respecter les uns les autres dans notre nature humaine et spirituelle. Et je pense particulièrement aux petits-enfants, parce que je suis une vieille grand-mère, et je les vois agir. Et je suis toujours émue de leur spontanéité. Et c'est vrai qu'il faut les écouter, les petits-enfants, qui ont beaucoup de choses à nous dire et à nous aider à les remettre en place.
Voilà. Merci Bernadette, merci. Colette Combe, vous avez déjà tout à l'heure évoqué le rôle des grands-parents. Elle a dit un mot qui m'a fait tic, Bernadette. Elle a parlé de la spontanéité des petits-enfants, elle a parlé aussi de remettre en place.
De remettre les choses en place.
De remettre les enfants en place. Comment vous entendez ça?
Et oui, mais c'est bien peut-être ce que peuvent faire les grands-parents qui ont le temps. Ce qui se passe dans beaucoup de familles, c'est que les enfants sont témoins des souffrances de leurs parents, de leur fatigue, de leur épuisement. N'oublions pas la grande pression sociale en ce moment. Et les enfants vont prendre la place de soignants. C'est eux qui vont prendre soin de leurs parents, qui vont avoir une attention. Leur spontanéité va aider à ça. Ils vont apporter leur fraîcheur, ils vont faire remarquer, tu es fatigué, ils vont dire des choses comme ça. Et ça, effectivement, c'est pas forcément leur place, mais c'est la place de beaucoup de jeunes enfants actuellement. Une maturité. Très grande du fait du climat d'anxiété général de la société. Ils sont attentifs, spontanés, mais attentifs. J'aurais envie de dire ça. Donc, qu'à côté d'espérer pouvoir les aider à tenir leur place et à ne pas déborder, parce que dès qu'on dépasse les bornes, il n'y a plus de limites. Et donc, il faut que les bornes soient bien nettes dans l'éducation. Mais quand des parents rentrent très fatigués, très inquiets pour leur travail, pour la sécurité de la famille, pour tout ça, eh bien, parfois, c'est les enfants qui sont les plus délicats, les plus attentifs. Et de cette façon, certes, ils apprennent autre chose que ce que les générations d'avant ont appris, mais est-ce que c'est leur place ?
On va écouter Monsieur Roux. Et Monsieur Roux nous chante « Ah, si j'étais grand et beau ». Et puis, on se retrouve tout de suite après. Vous continuez à nous appeler dans le temps de le dire, au 04 72 38 20 23. Vous réagissez sur les questions autour de la malaise, autour de la condition masculine. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui? Comment envisager les relations hommes-femmes au sein du couple, au sein du monde du travail? Et puis, peut-être comment devenir père? On va peut-être aborder cette question après.
Du lundi au jeudi, le temps de le dire sur RCF.
Les hommes perdent-ils leur position avantageuse? Les femmes obtiennent-elles une position avantageuse? Comment tout cela se goupille-t-il? Eh bien, nous en parlons ce matin. Y a-t-il un malaise chez les hommes à cause de l'émancipation féminine? C'est notre sujet. Vous pouvez intervenir au 04 72 38 20 23. Vous pouvez nous écrire le temps de le dire @rcf.fr en minuscule et tout attaché. Nous sommes avec Laurent Ledoux et l'association Psychologie et Management. Et avec psychologie, philosophie et management, et avec Colette Combe, qui est psychanalyste et médecin dans un service d'endocrinologie. Martine est avec nous depuis Grenoble. Bonjour Martine.
Oui, bonjour Stéphanie. C'est la première fois que je passe à l'antenne, mais je vous remercie pour vos émissions.
Soyez
et je voulais revenir à ce que M. Ledoux a dit juste avant la chanson de Paul Naref sur la déconnexion. Et moi, j'ai pensé à l'hôpital, qui suis infirmière hospitalière depuis 30 ans, et toute la souffrance que ça engendre, justement, de cette déconnexion entre le bas et le haut. Voilà, de la vulnérabilité aussi, que vraiment les hommes comme les femmes, on est vulnérables, et suivant nos parcours de vie, eh ben on n'est pas tout le temps des superwomen ou des superman. Et que si aussi des hommes réussissent, hein, c'est que derrière, il y a un foyer, il y a une femme qui est là pour assurer ce qu'on appelle l'intendance au quotidien. Ça, on n'en parle pas trop parce que ça ne se monnaie pas, mais c'est au quotidien que ça se fait pour que y en a qui puissent avoir des carrières importantes. Voilà.
Merci Martine, merci Martine. Alors Laurent
Ledoux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci. Laurent Ledoux, vous voulez réagir à ce que vient de dire Martine, hein, la question de la carrière, et il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui assure l'intendance pour que monsieur ait une jolie carrière. C'est encore vrai ça aujourd'hui ?
Absolument, je pense que c'est effectivement une des conditions du succès de tous les grands hommes ou de toutes les grandes femmes, hein, par ailleurs. Joan Tronto, qui est une philosophe qui a réfléchi beaucoup sur la question du care, formule un peu tout ce que vient de dire Martine avec cette phrase « Qui range les chaussettes de l'homme d'affaires ou du grand personnage public ?» C'est ça, c'est toute cette question-là. Et ce qui se passe encore trop souvent aujourd'hui, c'est qu'on cache cela. On cache tout cela parce que finalement, ça met mal à l'aise. Et ça remet en cause toute une série de règles qui prévalent dans les entreprises. Hein. Par exemple, la réussite avant tout est considérée comme individuelle. Et donc, on a des évaluations individuelles. Et cela nie implicitement tout le travail qui est fait et qui est invisible par essence de ce soin apporté aux autres. Qu'il se traduise dans, effectivement, le travail des infirmiers dans un hôpital, mais aussi de manière plus générale dans toute la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire remonter à la surface cela, et que, entre autres, cela provoque un malaise chez ceux qui en bénéficiaient de manière implicite et non visible. Ça, c'est un énorme enjeu, me semble-t-il. L'autre chose, je voulais réagir là par rapport à ce qu'avait dit Bernadette sur le fait de remettre en place les enfants. Mmh. Cela m'a fait penser à quelque chose un peu différent de ce que disait Madame Combes. C'est le fait que la crise ou le mal-être masculin aujourd'hui est plus que simplement un problème de relation homme-femme, c'est aussi une crise de l'autorité de manière générale. Autorité dont, a priori, dans nos sociétés patriarcales, les hommes étaient détenteurs. Et donc, c'est cette remise en cause de l'autorité qui est aussi la cause de ce mal-être. Et on le voit dans les relations enfants-parents, qui a effectivement, mais pas seulement enfants-parents, également élèves, professeurs, à tous les niveaux, on voit une remise en cause de l'autorité. Et ça, je pense que c'est un enjeu fondamental. Il faut repenser notre manière d'être père, donc dans ce cadre-là, tout comme d'être mère, d'être professeur, d'être enseignant, de dispenser un savoir que d'autres n'ont pas, un savoir-être, un savoir-faire, etc. Là, il y a un enjeu fondamental. Se remettre à sa place, c'est cela aussi. C'est tout en étant respectueux de l'enfant ou de l'élève, d'oser prétendre que l'on détient par l'expérience certaines choses qu'on peut leur transmettre.
Alors voilà, crise de l'autorité, je crois que Colette Combes, vous partagez cette analyse, mais on reviendra aussi sur qui range les chaussettes de l'homme d'affaires. Alors ça, je vais l'inscrire en haut de ce studio, je trouve que cette formule est formidable, et je pense à toutes les femmes qui ont choisi de ne pas travailler et pour qui monsieur fait une carrière. Elles sont complètement niées aujourd'hui dans notre société, et je crois que cette phrase « qui range les chaussettes de l'homme d'affaires » leur rend honneur. Colette Combes, crise de l'autorité.
Oui, je dis juste un mot des chaussettes, un petit mot d'enfant à peu près analogue, voyant son père passer à la maison entre deux avions. « Tu viens changer de chemise, papa ?» C'est à peu près la même chose. Mais ça n'est pas la faute de ces hommes-là. C'est notre monde qui est très hyperactif, très rapide. Et il y a plein de choses qu'on oublie quand on va trop vite, en fait, hein, qu'on n'a pas le temps de voir. Parce que pour voir, il faut se poser, il faut s'asseoir, il faut pour prendre le temps de réfléchir. Hein. Et je crois que c'est ni la question du masculin et du féminin, mais c'est la question de la société contemporaine. Alors, crise de l'autorité, j'ai envie de rajouter le mot crise de la transmission. Dans la suite de mai 68, mais Hannah Arendt aurait dit dans la suite du début de l'école au Moyen-Âge, quelque chose se modifie de la place d'autorité qui était celle de celui qui sait et de celui qui peut témoigner. Actuellement, il y a aussi la difficulté pour les jeunes générations de savoir exactement ce que font leurs parents. Quand on demande de façon précise, ils ne le voient pas et ils n'en entendent pas forcément parler, puisqu'il y a moins de temps de parole. Et donc la question du témoignage, hein, puisque transmettre, c'est témoigner. C'est être à pouvoir dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent. L'autorité, elle va de soi. Quand quelqu'un témoigne de ce qu'il est, et il a autorité à ce moment-là. Et je crois qu'actuellement, ces longues, longues journées, aussi bien des parents que des enfants, font qu'il y a quelque chose qui est miné à ce niveau-là. L'autre question, c'est, sommes-nous dans une période de renaissance? Sommes-nous dans une période de décadence? Disons les deux, nous sommes dans une période d'extrême changement. Je lisais tout à l'heure en venant dans Le Monde que 140, 100, 200 emails par jour, ça ne va plus, mais que les jeunes générations ont déjà lâché ça, qu'ils fonctionnent avec le système des réseaux et qu'ils vont demander des solutions parfois comme ça et qui vont leur venir de l'autre bout du monde. Il parlait d'un chercheur qui cherchait la solution à une équation, qui le met sur réseau et qui a la réponse 48 heures après, ce qui permet à l'entreprise de poursuivre la recherche qui était en cours. Et donc, nous, être celui qui sait, les enfants savent beaucoup plus de choses de tout ce monde-là. Je dis des banalités, mais ce ne sont pas des banalités, question d'autorité. Comment on a leur autorité quand l'enfant est déjà passé à autre chose? Ouais. Et que donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas lui transmettre par le fait de transmettre le geste, par transmettre la façon d'aborder les problèmes.
En fait, les enfants, on décode mieux le monde dans lequel nous vivons que leurs parents, c'est ça?
Eh bien, ils sont à 100 lieues, hein, un petit peu comme à la période qu'on a appelée la Renaissance à la fin du Moyen-Âge. Il y a quelque chose d'un monde neuf qui arrive. Et le mieux, c'est de le reconnaître et de se poser donc la question de transmettre autrement. Qu'est-ce qu'on a à transmettre? C'est pour ça que j'insiste sur témoigner. On a à témoigner de qui on est, des valeurs qu'on a, et que des parents puissent parler entre eux, hommes et femmes, et que donc des enfants voient la différence de leur façon de penser et voient comment ils s'écoutent. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour que des hommes, en tant que masculins, se sentent dans leur famille bien posés.
Laurent Ledoux, crise d'autorité et crise de la transmission?
Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ce que Madame Comte vient de dire. Je pense que, à la fois, effectivement, les enfants perçoivent des choses que nous ne percevons pas. Ils ont une capacité d'analyser les situations qui est parfois bluffante. Et en même temps, je pense que ce que Madame Comte disait, les parents peuvent témoigner et transmettre quelque chose. Je suis sur un tout autre plan. Par exemple, je pense que la relation disciple et maître est essentielle. Ce qui ne veut pas dire que le disciple doit être totalement soumis au maître, si on veut par exemple progresser.
C'est le philosophe qui parle?
Oui, c'est le philosophe ou le spirituel qui parle, mais qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour grandir. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que l'autre est plus grand que celui qui veut grandir, mais qu'il peut transmettre quelque chose. Voilà. Ça me paraît fondamental. Maintenant, je voulais revenir sur l'autre point sur la question des chaussettes, là. Mmh. Parce qu'elle est très importante, me semble-t-il, aujourd'hui, et en particulier dans la question du soin. Aujourd'hui, notre société a tendance à déléguer une série de ses tâches à des personnes qui sont elles-mêmes dans des situations très précaires et qui sont en particulier des femmes seule, migrante, et souvent avec un statut social extrêmement précaire. Et nous avons tendance donc à déléguer au travers de systèmes de marchandisation ce type de service. C'est extrêmement, je trouve, préoccupant. Et je pense qu'il faut aussi s'interroger sur ce que nous sommes en train de faire là. Voilà, ça me paraissait important aussi de l'évoquer par rapport à...
Soyez plus précis, Laurent Ledoux. Quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes de ménage, on peut avoir des gens qui vont au pressing, c'est pas bien ça?
Mais je pense que oui, il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement condamnable en soi. Je pense que cependant, quand je parlais de déconnexion tout à l'heure, cela peut mener à une déconnexion encore plus grande. Premièrement, ça peut nous mener aussi à reléguer à une autre catégorie de personnes. Je dirais que, pour résumer les choses très schématiquement, dans une société encore jusqu'ici récente, ces tâches étaient reléguées à la femme qui restait à la maison, l'homme allant à l'extérieur pour ramener l'argent, etc. Et puis aujourd'hui, comme les deux personnes généralement travaillent, eh bien on relègue ces tâches de soins, de repasser, enfin de laver les chaussettes, de s'occuper des enfants, de sortir le chien ou que sais-je, à d'autres personnes qui elles-mêmes sont très vulnérables. Donc je trouve qu'il y a là, on ne peut pas, si vous voulez, réfléchir sur le mal-être, entre guillemets, masculin, comme on le fait aujourd'hui, sans prendre en considération ces évolutions-là, si vous voulez.
Je voulais vous lire un mail qui vient d'arriver de Martine. Elle a des garçons qui sont en couple et elle nous dit, voilà, ils sont demandés tout azimut par leur compagne ou par leur femme pour les courses, les enfants, etc., etc. Et elle nous dit, j'ai l'impression que maintenant, ce sont les hommes qui souffrent comme nous, les femmes, nous avons peiné. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle, Colette Combes?
Oui, j'ai parfois ce sentiment. Et je crois que la solution de faire et de prendre toutes les tâches pour faire plaisir à leur femme n'est pas la chose principale, en fait, que demandent les femmes. Elles mettent souvent en avant « tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu n'es pas là, tu, etc. » pour dire « est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu encore ? Me désires-tu encore ? Est-ce que je suis ta compagne ?» Et il faut penser que quand une femme se plaint comme ça et demande de, à peine une chose est faite, elle en demande une autre. Les hommes disent ça. Le bricolage, les courses, etc. Ça peut être infini, mais il faut se poser la question principale à deux, entre nous, comment on est ? Est-ce qu'on se dit encore des choses gentilles? Et souvent, ce que je dis de concret, pour commencer, je dis peut-être qu'un bouquet de fleurs ou bien inviter votre femme au restaurant, ça la rendrait moins incarnée.
Ça vaut toutes les vaisselles et tous les ménages du monde, c'est
exactement.
Ça que vous êtes en train de dire? Non, vous êtes en train de dire qu'il faut que les hommes achètent leurs femmes, grosso modo, non?
Non, pas les achètent, mais aient des attentions, comme quand ils étaient amoureux au début, et restent amoureux. Je crois que c'est ça qu'elle... Qui importe dans un couple après, la solidarité, la parité, elle va s'organiser, chacun pouvant faire ce qu'il aime, qu'il peut supporter de faire, et l'autre, parce qu'on n'a pas forcément entre passer l'aspirateur ou faire les courses, par exemple, il y en a un peut-être qui préfère l'un ou l'autre, et donc on peut se rendre, s'alléger mutuellement toutes ces tâches quotidiennes en les partageant. Mais je crois que derrière les critiques féminines, il y a toujours la question de l'amour et du désir. Mais profondément. Moi, je le relierais volontiers à la spiritualité aussi. C'est reconnaître l'être dans l'autre. Et j'aurais du coup envie de dire quelque chose à nouveau sur l'autorité et la transmission en prenant l'exemple... Un des exemples tout récents que j'ai eu d'un papa avec sa petite fille de 4 ans qui va prendre le temps d'être dans le jardin, à planter des fleurs par exemple, ou bien simplement à l'écouter, raconter les choses et puis à contempler, à regarder, petite initiation presque à méditer, hein, mais qui aide d'être un père qui prend le temps. Et la vraie transmission, c'est celle qui laisse la place à l'autre. C'est pas de faire, de dire, c'est pas que transmettre ce qu'on sait. Et actuellement, ça n'est peut-être pas transmettre ce qu'on sait, mais c'est être disponible. Et le plus précieux de notre époque, c'est donner du temps. Et je pense que dans le couple, c'est pareil. C'est donner du temps.
Alors sur les chaussettes et sur la complémentarité homme-femme, il y a Annie qui est en Bretagne qui rappelle le mot du général de Gaulle s'adressant à sa femme, vous sans qui rien n'aurait pu arriver. Laurent Ledoux ?
Oui, tout à fait, non, je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais réagir à ce que Madame Combes disait avec un petit exemple personnel, c'est que le matin maintenant, depuis quelques années, puisque ma femme a repris un travail, elle est très occupée, c'est moi qui ai repris les tâches de faire les tartines des enfants le matin. Et encore récemment, ils me regardaient tous, les trois enfants et mon épouse, en train de les préparer et rigolaient en fait de l'attention que je prenais à bien couper les tartines, à bien les beurrer, etc. Et ils en rigolaient parce qu'ils trouvaient que c'était presque un office spirituel que j'étais en train de réaliser. Et en fait, ils n'avaient pas tout à fait tort. Et ça rejoint ce que disait Madame Combes sur ce papa jardinier. Je crois que à travers l'attention que je porte à bien préparer les tartines, je transmets quelque chose à mes enfants. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que pour moi, alors, ce type d'activité prend une dimension qui est beaucoup plus grande que celle de simplement faire les tartines, si vous voulez. C'est de bien faire tout ce que je fais, y compris les tâches les plus simples, et qui seraient peut-être par certains grands managers rejetées comme étant quelque chose pour lequel on ne devrait pas perdre son temps et qui pourrait être délégué à un tiers. Je crois que c'est tout le contraire que nous devons apprendre à faire, c'est à trouver aussi le bonheur et sa dignité, et le bonheur d'être un homme ou une femme dans le fait de bien faire ces petites choses, parce qu'elles sont en fait peut-être ce qui est le plus important également.
Colette Combes ?
Oui, j'ai un autre exemple un peu analogue qui souligne l'importance du respect des rythmes de chacun. Et dans ce que vous disiez, il y a vraiment prendre le temps de faire les tartines. Et un autre exemple, dans une famille où il y a deux garçons, une famille dont le papa, c'est sa deuxième famille, il y a 50 ans au moment de la naissance de ces deux garçons. Il y a un des garçons qui, le matin, n'arrive pas à se lever. Alors, c'est épouvantable. 36 fois, il faut lui dire, mets tes chaussettes, etc. Est-ce que tu as bien brossé tes dents, enfin. Et dans cette maison, c'est le papa qui prépare le petit déjeuner. Donc, c'est un moment qui est déjà très investi. Mais finalement, en réfléchissant à ce qui faisait excéder sa femme le matin à cause de cet enfant qui traîne, il nous est venu l'idée, en discutant, lui et moi, que peut-être si on se levait simplement 10 minutes plus tôt, ce petit garçon pourrait être dans son rythme. Que le rythme d'une demi-heure pour se préparer, pour petit déjeuner, bien sûr, ça lui donne 10 minutes de plus de sommeil, mais finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il se couche 10 minutes plus tôt pour que le matin, il y ait un peu plus de temps ? Et les choses se sont simplifiées parce que cet enfant, en fait, il a besoin un peu de jouer. Maintenant qu'il a un peu plus de temps, il sait que dans les trois quarts d'heure, il a un tout petit peu de temps pour jouer. Et voilà, il est mieux avec son père et sa mère. L'écoute des rythmes, c'est essentiel. Et dans le féminin et le masculin, il y a beaucoup cette écoute des rythmes. Et le respect des rythmes. Je prends un autre exemple, une jeune femme qui dit le temps qu'il fasse la machine à laver, mais j'ai le temps d'en faire 3 ou 4. Donc finalement, maintenant, je c'est moi qui mets le linge dans la machine et qui fait ça parce que ça m'énerve. Mais oui, mais forcément, c'est pas les mêmes rites, c'est pas la même façon de faire. Peut-être qu'en même temps, il réfléchit à quelque chose qui fait ça, un peu comme ce petit garçon dont je parle, en prenant son temps. Et alors ?
Voilà. Je voudrais vous lire un mail qui est arrivé d'Aurore. En ce qui me concerne, j'ai pris un congé parental long pour mes deux enfants. Et mon mari a aussi décidé d'être présent, en rentrant régulièrement tôt et en emmenant lui-même notre fils à l'école. Nous avons donc décidé tous les deux de mettre l'accent sur la vie de famille et nous avons de ce fait beaucoup réduit notre niveau de vie. Peut-être que notre société pousse aujourd'hui les hommes comme les femmes à l'extérieur de la vie de famille, comme si c'était le vrai lieu de l'émancipation et de la réussite professionnelle et financière. Mais il ne reste plus personne dedans. Je crois que chaque couple doit se poser la question de savoir ce qu'il veut mettre en avant, ce qu'il veut privilégier, la famille ou le travail. L'un ne va pas sans l'autre, mais l'équilibre est sûrement à trouver avec plus de recul et une plus grande liberté de décision. Ce n'est pas forcément l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que ces deux pôles existent au risque de sacrifier la famille. Laurent Ledoux, ça vous parle ça ?
Ça me parle, mais j'aimerais compléter ce qui vient d'être dit en disant que je pense que les entreprises également ont un rôle à jouer dans tout cela. Par exemple, quand on a des, on critique le fait qu'il n'y aurait pas assez de femmes effectivement dans les conseils d'administration, dans les comités de direction des entreprises. Et alors on dit on va imposer des quotas pour le faire. Mais si en même temps on n'évite pas de placer des réunions à 7h du matin ou à 7h le soir, évidemment. Pour beaucoup de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, cela peut poser des problèmes par rapport à la vie de famille. Donc je pense qu'il y a là quelque chose aussi qui est du ressort et de la responsabilité des
On avait fait une émission, j'avais fait une émission la dernière sur l'entreprise et la famille. Ça commence, il y a un frémissement, c'est surtout des PME ou des très grands groupes qui s'y mettent.
Tout à fait, il y a un frémissement, mais on est encore très très loin du compte dans beaucoup de cas.
C'est la fin de cette émission, Le Temps de le dire, consacrée au malaise autour de l'identité masculine. Juste un dernier mot, Colette Combe, vous restez optimiste?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que si justement on donne du temps et qu'on modifie notre relation au temps, je pense que c'est ça qui a défait beaucoup de choses en fait dans la communication entre hommes et femmes et qui fait souffrir les hommes aujourd'hui, je crois. Je ne pense pas que ce soit leur plaisir d'être en réunion à 7h du soir. Hein.
Laurent Ledoux ?
Oui, moi je reste aussi optimiste parce que je pense que s'il y a effectivement crise de la masculinité aujourd'hui, c'est une étape dans un processus qui va vers des hommes et des femmes plus conscientes de leur et de leur complémentarité et de leur vulnérabilité et donc une meilleure condition humaine en fait. Donc je pense que c'est une étape dans un processus qui, je l'espère, va dans le bon sens.
Eh bien, un grand, grand merci à tous les deux, Colette Combe et Laurent Ledoux. Merci aux auditeurs qui ont participé à cette émission, à Pierre-Henri qui était de l'autre côté de la glace, à l'équipe technique à Lyon, et puis à Claire qui m'accompagne régulièrement pour préparer ces émissions. Sachez que demain, nous aurons un sujet difficile. Nous interrogerons comment mieux protéger les enfants victimes de violences. Nous serons avec, entre autres, la défenseure des enfants. Pour cela, vous pourrez également témoigner ou interpeller. Voilà, merci à tous. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site internet de RCF. Bonne journée.